Bonjour, bienvenue sur Underscore, l'émission qui défend le numérique alternatif. S'il y a bien des choses pour lesquelles on pêche, c'est pour trouver les infos. Quoique encore une fois, ne mordons pas à l'hameçon des moteurs qui monétisent vos actions. Nous allons surveiller ensemble le bout de ligne et voir quel homme pingouin en sort.
Les pingouins? Les pingouins? Bonjour Cécile.
Bonjour Emmen. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Salut Cécile, Madame
Emmen. Bonjour.
Et bonjour à Siltar, qui nous fait le plaisir Siltar. De nous rejoindre pour Salut. Parler d'un de ses projets, parce que tu en as plusieurs, un projet de logiciel libre, voilà, qui s'appelle MetaPress. Donc ça parle de revues de presse et de tout un tas de choses autour de ça. Voilà, c'est le sujet du jour.
En attendant un petit peu d'actualité.
Allez, qu'est-ce qu'on a à l'actu?
AWS finance le développement de Blender pour 3 ans. C'est cool pour eux.
Apple supprime les exceptions au pare-feu pour ses propres applications dans macOS Big Sur. Mais on ne sait toujours pas pourquoi elles étaient là au départ.
8,7 sur 10 pour l'indice de réparabilité du Fairphone 3. Même si on peut rester dubitatif quant aux critères utilisés, enfin c'est toujours mieux qu'Apple qui se donne une bonne note pour dire comment enlever 3 vis.
Le site web de la Maison Blanche, déjà plus inclusif et accessible. Il propose notamment la langue espagnole, comme avant que Trump l'ait fait supprimer. Comme il avait fait supprimer les pages sur le changement climatique. Il faut croire que certaines de ses fonctionnalités avaient seulement été cachées et donc facilement restaurées.
Les éditeurs de presse trouvent un accord avec Google sur les droits voisins. Google va les payer pour la publicité qu'il leur cause. Vous arrivez à comprendre le concept, vous ?
La neutralité du net peut être bientôt de nouveau respectée aux US. Une présidente par intérim a été nommée à la FCC par l'administration Biden, Jessica Rosenworcel. Elle est connue pour être favorable à la neutralité du net, principe qui avait été mis de côté par Ajit Pai. Elle a déjà annoncé un plan très haut débit, il se pourrait donc que la FCC retrouve le droit chemin bientôt.
7,8 millions d'euros d'amende pour Valve et 5 éditeurs de jeux vidéo. En cause, le géoblocage organisé sur la plateforme Steam qui de fait interdit les ventes transfrontières, ce qui n'est pas autorisé en Europe.
En 2020, plus 39% sur le montant des amendes RGPD en Europe, soit près de 260 millions d'euros.
Tristan Nitto rejoint Unsearch. Il va travailler notamment sur une extension de navigateur nommé Culture Alsace pour mettre en valeur la culture alsacienne dans le résultat des recherches.
Sortie de GTK 4.0, le toolkit utilisé par le bureau Gnome sort en version 4.0 avec plein de nouveautés.
Facebook ne recommandera plus les groupes politiques à ses utilisateurs. Pas sûr que ça suffise, mais ça va dans le bon sens.
Ouais, ou plutôt c'est utilisé, comme disait RMS.
Ça n'empêche qu'ils veulent toujours me proposer d'adhérer au groupe sur les chats.
Les chats, ah, j'aime les chats.
C'est ça.
Ouais, ben non, c'est pas cette musique-là qu'on a aujourd'hui. Allez, on se fait une petite pause, à tout de suite.
Club Mood, Solitude. Il y a un bon chouptune avec en plus des paroles en français.
Et un clip en cinémascope. Hein.
C'est ouais, avec un gars qui mange des hamburgers dans une Volvo, c'est à voir.
Ouais, ouais. Passons au sujet. Et le sujet du jour, c'est Metapress. Avec,
excellent donc, sujet.
Voilà, avec Siltar, c'est ton projet. Alors j'ai vu passer notamment sur Mastodon, parce que tu as parlé du financement, je crois, qui est un financement qui va s'arrêter. Donc du coup, je me suis dit, bah, on va lui donner la parole pour expliquer
oui,
son projet,
chatter.
Pour éventuellement trouver d'autres financements.
Donc, exactement.
Donc comment on peut te présenter déjà
Alors, donc je suis Simon Descarpentries, alias Siltar sur les réseaux. Mon activité professionnelle, c'est d'être artisan du web. C'est-à-dire que je fais des sites web et je fais ça tout seul. Et un peu comme un artisan, je prends les projets de A à Z. J'aide des associations à la conception de leurs trucs parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose, mais ils ne savent pas bien comment le faire. Et réalisation, mise en place, maintenance, tout ce dont il y a besoin. Ça se fait via l'entreprise Acuro, dont je suis le gérant. Et donc pour me présenter, je fais tout ça à la suite d'une formation d'ingénieur en informatique. Hein. J'ai d'abord appris à le faire avant de m'y lancer, mais j'ai rencontré surtout plein de gens grâce à des engagements associatifs multiples. À l'April dès 2002, FDN peu de temps après, et de manière assez intense à la Quadrature du Net des débuts de l'association à encore aujourd'hui. Plus localement, maintenant que je suis plus sur Paris, mais sur Bressuire, eh ben, j'ai l'occasion d'être au bureau du LUG, du groupe d'utilisateurs de la ville, qui s'appelle Gébul. Et je vais noter que je suis réparateur bénévole de Fairphone, ce qui n'a pas beaucoup de mérite, puisque les Fairphone sont très faciles à réparer.
Comment
hein.
Les Apple.
Tout de suite. C'est facile de réparer un iPhone. Hein.
Oui, bah tu changes la carte mère.
Ça, faut le renvoyer au constructeur, c'est pas facile.
Slash troll. Et donc, comment t'es venu l'idée de ce projet Metapress ?
Eh bien, c'est donc dans cet engagement auprès de la Quadrature du Net. Pendant 5 ans, je me suis retrouvé à m'occuper de la revue de presse. C'est une tâche qui était à renouveler tous les jours et qui demandait beaucoup de travail. Et on n'avait pas d'outils super adaptés pour faire ça. Donc, on se retrouvait à faire beaucoup de copier-coller à la main. Pour chaque article, la date, l'auteur, le titre, le lien, la description, et on recommence. Et ça prenait plein de temps. Pendant ces nuits que j'ai passé à faire des copier-coller, je rêvais d'un outil qui m'aurait permis de travailler plus efficacement. Et donc, j'ai eu tout le temps de réfléchir à aux fonctionnalités que devrait avoir cet outil, à quoi devrait ressembler ce truc pour qu'il soit pratique. Et donc, bah, cet outil, c'est quelques années plus tard ce que j'ai pu développer comme Metapress, un outil qui permet, pour cette tâche de revue de presse dans une association, d'économiser plus de 80% du temps que je passais moi à faire des copier-coller. Mais c'est aussi un outil dont je rêvais parce que la Quadrature du Net, en luttant contre les GAFA, se retrouvait régulièrement à critiquer les positions de Google et dépendait pourtant complètement de Google Actualité, le fil d'actualité de Google, pour sa revue de presse. On est abonné là-dessus, ça nous prévient.
12 besoins d'indépendance.
12 besoins d'indépendance, puis de mise en cohérence quoi, entre ce que revendique l'association et ce qui se passait concrètement derrière. Donc voilà, ça m'a demandé plusieurs années de trouver un moyen de se passer concrètement de Google Actualité pour faire la revue de presse de la Quadrature. Mais c'est ce qui peut se passer aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'a fait aussi Framasoft qui au début utilisait Gmail par exemple. Et ils ont expliqué que ça a été compliqué aussi d'arriver à s'en passer. Hein.
Ouais. Et oui, l'outil sur mesure très pratique avec la puissance de Google derrière.
Ouais. Et alors c'est l'occasion de dire aussi que la revue de presse, c'est une action assez méconnue mais essentielle dans le fonctionnement de la Quadrature, qui permet notamment de monter en compétence sur des sujets, puisque du coup on est obligé de lire tous les articles qui en parlent pour s'en imprégner. Et on peut faire d'ailleurs un petit coucou à Kota et à Goff qui a repris le flambeau. C'est donc un bon point de départ si vous voulez contribuer à la quadrature, d'essayer de rentrer par cette porte de la revue de presse.
C'est très formateur en effet, et c'est accessible à tout le monde pour démarrer. Et je remercie en effet très chaleureusement Kota et Goff parce qu'ils continuent ce que j'avais commencé et que moi maintenant je m'amuse à développer Métapresse alors qu'ils continuent à faire la revue. Bref, bravo à eux.
Et donc du coup, concrètement, à quoi ça sert cet outil ?
Alors, concrètement, cet outil, c'est une extension de navigateur qu'on peut donc ajouter à son Firefox, qui offre un bouton sur la barre de tâches et qui permet donc, en cliquant dessus, d'ouvrir un nouvel onglet, sur, comme une page web, une page d'un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, on lui donne quelques mots-clés, on appuie sur le gros bouton et l'extension va aller interroger très très rapidement des journaux qui sont déjà référencés dans, dans l'extension. Alors il y a plus de 250 journaux déjà référencés, ça cherche automatiquement dans les journaux de votre langue, mais il y a un réglage possible très complet sur les journaux dans lesquels on veut chercher, HTTPS ou pas, de la presse ou de la presse scientifique ou avec ou sans les images, on a plein de choix. Et donc l'extension va aller interroger un par un tous les journaux, récupérer les résultats, les rapatrier dans votre navigateur et vous les trier par ordre chronologique. Ça donne le même résultat que Google Actualité. Il n'y a pas besoin d'avoir des data centers près du cercle polaire et de faire chauffer énormément de machines pour avoir les résultats de la presse triés par ordre chronologique. Ça fonctionne dans ce cas particulier, c'est celui de la presse, parce que dans le cas de la presse, la pertinence d'un journal, d'un article, la pertinence d'un résultat, elle est donnée par la date. On s'intéresse toujours au dernier truc, au dernier article paru sur un sujet donné. Ça ne pourra malheureusement pas remplacer les moteurs de recherche généralistes, mais bah, ça fait toujours un cheveu de moins sur la tête à Google, et ça permet de remplacer efficacement Google Actualité. L'outil, du coup, s'adresse à ceux qui utilisent Firefox et qui peuvent l'ajouter à leur navigateur. Et là où il commence à se démarquer de son concurrent, c'est dans les fonctionnalités supplémentaires proposées. Il est par exemple possible d'exporter des résultats et puis de les réimporter. Il est possible d'effectuer une recherche sur les résultats qu'on a obtenus déjà, une sous-recherche pour aller récupérer quelque chose de précis ou de les filtrer par date. Et il est même encore possible d'aller sélectionner certains des résultats seulement et puis de les exporter. Et c'est là qu'on commence à basculer vers la revue de presse. Pour faire une revue de presse, on fait une recherche sur le nom de son association, on regarde les derniers résultats qui sont trouvés avec le nom de la sauce dedans, et puis on peut aller sélectionner les 3-4 derniers qui viennent d'arriver, les exporter sous forme de flux RSS, qu'on réimporte derrière dans son site web pour alimenter directement la rubrique.
Oh, c'est génial. Mais du coup, alors y a déjà des logiciels hein, qui font lecteur de flux RSS, y a Flux notamment. Et du coup, c'est quoi la différence ? Alors, en fait, on peut normalement déjà faire des recherches dans les lecteurs RSS un peu évolués. Est-ce que c'est l'ergonomie qui change parce que c'est orienté revue de presse ou il y a d'autres choses en plus ?
Alors, il y a d'autres choses en plus. La confusion peut venir du fait que Métapresse permet d'exporter les résultats obtenus sous forme de fichiers RSS. Ce fichier RSS valide, on peut aller le mettre dans un agrégateur si on veut après. Mais c'est juste le format d'export et d'import de Métapresse. Métapresse va pas aller interroger les flux RSS des blogs que vous préférez pour avoir des résultats. Métapresse interroge des journaux. Et alors une autre confusion est possible parce que certains journaux proposent de récupérer les résultats d'une recherche sous la forme d'un flux RSS. Et quand c'est le cas, on privilégie cette possibilité. parce qu'elle est plus stable dans le temps, elle est normalisée, tous les journaux vont présenter les résultats pareils, alors que sinon, il faut qu'on aille dépiauter la page web qui présente les résultats de chaque journal. Et puis, dès que la page évolue un petit peu parce qu'ils ont changé d'apparence, eh bien, il faut qu'on retourne à nouveau câbler la détection des résultats dans la page, de notre côté. Alors, eh bien, un agrégateur de flux RSS, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va régulièrement regarder les nouveaux contenus de vos sites préférés. MetaPress, ce qu'il fait, c'est qu'il va interroger des journaux sur un thème précis, pas garder l'historique de tout ce qu'a fait votre auteur de blog préféré. Quand on fait une nouvelle recherche, tout est évacué derrière, on ne récupère que ce que vous avez exporté, vous. Donc, c'est pas un lecteur de flux RSS, même si on peut importer un flux RSS dedans comme si c'était les résultats d'une recherche.
Comme une source pour faire des recherches dedans, quoi.
Oui.
Ok. On rappelle au sujet qu'on a déjà fait une émission sur les flux RSS en avril 2020. Bien. Donc, comme d'habitude, il y a tous les liens sur le blog AAA.fr.
Super.
Et d'ailleurs, donc, techniquement, bah oui, comme tu l'as dit, on utilise les flux RSS. Mais effectivement, il y a des sites qui oublient parce que ça se fait plus, enfin, paraît-il.
Allez, des journaux qui proposent leurs résultats de recherche sous la forme d'un flux RSS, il y en a, où je disais, peut-être un quart parmi les sources qu'on a, et c'est majoritairement les journaux qui s'appuient sur un WordPress pour lequel ils n'ont pas changé la configuration. Et dans la configuration par défaut d'un WordPress, les résultats de recherche sont disponibles sous forme de flux RSS. Donc en gros, c'est des journaux qui ne se rendent pas compte qu'ils le proposent, mais nous, ça nous arrange beaucoup. Ce que j'aimerais énormément, moi, c'est que les développeurs de Spip, qui est un moteur
libre,
développé par des Français et largement utilisé dans la presse, développé à l'origine par les gens du monde diplomatique, hein, c'est, ça a suffisamment de prestance pour que plein d'autres organes de presse se disent « Ok, on va prendre le même moteur pour le site web. » Et ben, ce que j'aimerais, c'est que les gens de Spip activent un flux RSS par défaut pour les résultats de recherche. Ce serait super pour nous. Parce que donc, dès qu'il y a un flux RSS, c'est ça qu'on prend. On gagne le temps de l'analyse, nous, quand on intègre une nouvelle source. Si c'est un flux RSS, on claque des doigts et hop, on sait le lire. Si c'est n'importe quelle autre page web, eh ben, il faut aller analyser le contenu de la structure du HTML pour voir où sont les titres, pour voir où est la collection de résultats dans la page. Et donc, en effet, quand il y a des flux RSS, on les utilise, on en est bien content.
Et ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on peut t'aider pour ton projet ? On peut peut-être donner des pépettes, si on en a.
C'est toujours possible. Mais le meilleur moyen de m'aider, c'est d'abord de contribuer. Si vous avez des compétences en informatique, venez rajouter, c'est un peu de JavaScript, c'est pas compliqué. Je vais avoir besoin de toute façon d'un maximum de monde pour m'aider au moins à trouver et à intégrer des sources. Parce que pour l'instant, le moteur de recherche, il sait chercher dans 250 journaux. Il va falloir monter un peu. Il faudrait qu'on en ait 20 000 en stock et qu'on puisse ensuite les trier par langue. Mais donc la première chose à faire, si c'est possible, c'est venir contribuer. Son journal préféré, une thématique précise. Voilà, moi j'ai des gens qui sont venus contribuer, ils ont ajouté de la presse scientifique. Je ne m'attendais pas du tout. Le premier contributeur à ce projet, une fois qu'il a été publié, ça a été un gars qui dit « Allez, moi je vais intégrer des sources de recherche de presse scientifique. » Et donc on a neuf journaux qui sont des agrégateurs d'articles scientifiques, quoi. Pas de la presse grand public. Donc ensuite, si on a des petites compétences en développement web, on peut toujours aider à intégrer l'outil, à intégrer des nouvelles sources, si on ne fait pas du code directement. Et puis si on n'est pas développeur web, eh bien, la priorité c'est d'abord de faire connaître l'outil, l'apporter à son public, que chaque association qui fait une revue de presse sache que ça existe, que chaque journaliste qu'on connaît et qui pour l'instant est enfermé dans sa bulle Google de résultats, sache qu'il peut en sortir en utilisant un nouveau moteur de recherche qui lui donnera toujours les mêmes résultats quand il fait la même recherche.
Oui, et qui ne sera pas orienté parce que c'est plus intéressant financièrement et monétisé par Google derrière.
Exactement, il n'y a pas de pub, il n'y en aura pas. C'est un outil qui est libre et gratuit et qui le restera. Après, si on n'est pas développeur web, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'arrive pas à le faire connaître autour de soi, il reste toujours la solution la plus simple, c'est de me dégager du temps à moi pour que je le fasse. Par exemple, comme je suis en train de faire là en ce moment en vous parlant. Et pour ça, il est possible de faire des dons via la plateforme libre Liberapay ou via la plateforme pas libre, mais qui permet les dons mensuels, récurrents, petits, qui sont les principes les plus intéressants, Patreon. Comme le développeur de Mastodon, par exemple. C'est Benjamin Bayard, il m'a dit « Regarde, Patreon, ça marche, c'est bien Liberapay, mais ouvre aussi un Patreon. »
J'ai ouvert un Patreon. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Voilà.
Voilà.
Donc c'est comme ça qu'on peut aider.
Et alors, tu as dit que tu étais libriste, tu avais plein d'autres projets. Qu'est-ce que tu as comme autres projets encore en cours ou peut-être dans les cartons?
Déjà j'ai mon boulot. Il y a tout plein de contrats et c'est toujours fait avec des logiciels libres. Et moi, je bosse plus que avec des associations depuis 2015. J'ai fait par exemple tout le système d'information de Solidarité Paysan au niveau national, un truc qui a 800 utilisateurs maintenant. Ils ont ajouté 20 000 comptes rendus de réunions en 2 ans. Ça leur a permis, à travers toute la France, d'un département à l'autre, alors que chaque section avait son propre vocabulaire et ses propres outils, d'avoir enfin quelque chose de cohérent, d'homogène, et d'avoir le même vocabulaire pour s'aider entre eux et entre départements. Et puis cette asso, ça passait 6 mois à faire les statistiques de l'ensemble national du réseau, parce que tu demandais les stats et tu les obtenais pas tout de suite, fallait relancer, fallait convertir les formats d'un département à l'autre pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent à la fin. Et là maintenant, ils cliquent sur un truc, en 2 secondes, ça sort. Mais en termes de développement, sinon de choses que je redonne à la communauté, il y a des side projects de MetaPress. Des choses que j'ai identifiées dès le début comme étant éminemment réutilisables et qui du coup sont arrivées dans leur propre dépôt de code à côté. Il y a par exemple la bibliothèque Month Number qui est pas facile à prononcer mais super pratique. C'est une simple fonction en JavaScript, une fonction à laquelle on peut donner le nom d'un mois dans n'importe quelle langue, de n'importe quel pays, de toute la planète, et qui ressort le numéro du mois.
JavaScript, c'est pas faire ça ?
Eh bien, JavaScript, c'est pas faire ça. Et j'en ai parlé sur LinuxFR, j'en me dis, oh, il y a des trucs pour faire ça en C. Oui, mais moi, mon problème, c'est une extension en JavaScript dans le navigateur. Et JavaScript, c'est parser des dates en anglais, ouais, et c'est tout. Voilà. Alors du coup, bah, quand c'est un nom de mois en italien, tu te débrouilles. Quand c'est en chinois, c'est encore mieux. Et du coup, bah, cette month number, c'est relativement simple. Hein. C'est une grosse arborescence d'expressions régulières. Tu mets un mot dedans, tout que ça dégringole jusqu'au numéro du mois. Et le code, c'est un parcours d'arbre en profondeur d'abord. Du coup, je l'ai fait en JavaScript parce que j'en avais besoin. Une fois que j'ai ma belle structure de données, je l'ai fait aussi en Python pour m'amuser. Et c'est 30 lignes de Python et hop, ça, on a les résultats. Et donc, je me sers de ça pour aider au parsing des dates dans tous les pays. Parce que il y a déjà dans MetaPress, je disais 250 sources, mais
de langues.
Alors, 23 langues et je recharge vite fait l'extension parce que j'ai les stats en pied de page.
Oui, du
alors,
coup, si
on... 54 pays et 23 langues.
Oui, quand même.
Donc,
bah oui, parce que sur les
pays,
articles, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'ils sont vieux ou pas. Donc, si on ne connaît pas la date...
Voilà, comme en effet, le principal point, c'est le nom de l'article, puis sa date, parce que je l'ai trié par ordre chronologique, il fallait que je sois capable de gérer correctement les dates. Alors, autre projet que je développe, il y a GetHTML Auto, qui est un get text, quelque chose qui se rapproche le plus du get text des applications en C, là, une méthode pour traduire l'application. Il y a plusieurs méthodes différentes pour qu'une une web extension, là, une extension de navigateur, puisse être traduite dans plusieurs langues, et les méthodes existantes, il y en a qui se périment, la officielle du moment, elle me plaît pas du tout, parce qu'il faut inventer un identifiant pour chaque bout de phrase à traduire, alors que là, moi, ma bibliothèque, elle parcourt la page, elle prend toutes les phrases, ça devient la clé des choses à traduire, et il n'y a plus qu'à mettre la traduction derrière. Ça économise la moitié du boulot. Et donc, mon extension, elle est disponible en français, en anglais, en espagnol, parce que j'ai un ami uruguayen qui trouvait le projet super et qui s'est proposé, et en espéranto. C'est pas moi qui parle espéranto, c'est mon papa, mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme approche. Enfin, je suis un grand supporter de l'espéranto. Voilà, et puis pour finir, je fais d'autres trucs pour m'occuper hein, depuis que je suis plus sur Paris et que je veux quand même m'adresser au reste du monde. Du fond de mes deux sèvres, j'écris un blog qui s'appelle Le Grimoire Commande, dans lequel j'ai mis un peu mes mémoires d'apprenti informaticien. Vous savez bien qu'on ne maîtrise pas Linux et la ligne de commande. En fait, on devient humble. Et au fur et à mesure de ce parcours, j'ai moi toujours noté les commandes qui me semblaient trop complexes pour que je m'en souvienne. Et il est arrivé un jour où je me suis dit, je vais publier toutes ces commandes que j'ai gardées dans mon grimoire personnel de formules magiques complexes qui arrivent à des bons résultats. Donc voilà, toutes les semaines, je publie une nouvelle commande pour faire des choses formidables avec son ordinateur et à partir de sa console. Voilà, sinon, pour être un bon samaritain du logiciel libre, je n'hésite jamais à dégainer un rapport de bug ou une feature request. Et ça, en fait, eh ben, ça prend plein de temps. Je comprends qu'il n'y ait pas tant de monde qui en fasse.
Si on veut le faire correctement, oui, c'est pas évident. Eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. On souhaite longue vie au projet
MetaPress. Installez MetaPress, testez MetaPress, venez me dire ce qui pourrait être encore amélioré. Installez-le au maximum. C'est rien que ça, ça m'aide, ça fait gonfler les statistiques et ça aide à ce que ce soit pris au sérieux après quand j'en parle.
Exactement.
Mais testez-le, il est super cet outil, il fait ce qu'il dit. Et,
il dit ce qu'il fait. c'est du libre.
Voilà.
Allez, on fait une petite pause.
On se retrouve pour l'agenda.
À tout de suite.
Mobo Get Funky.
Ça, ça pue le souci des dents.
Oui, et ben c'était pour dépoussiérer de la musique Amiga.
De passons à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Atelier IMAX. Il sera question de IMAX. Oui, c'est une lapalissade de OrgMod, de Lisp et même de Vim. Mmh. Et c'est ouvert à toutes et à tous et à tous les niveaux, de débutants à experts gourous. Ce sera le mardi 2 février à 17h30 en ligne.
Open Day. L'Open Day est un événement proposant un ensemble de conférences sur le thème du logiciel libre, organisé par les étudiants de l'Université Lumière Lyon 2. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux bénéfices qu'il peut tirer de l'utilisation de logiciels libres sans inscription en visio le mercredi 3 février 2021 de 9h à 12h30.
Et enfin, on a le FOSDEM. Et oui, depuis plusieurs années, en plus, on a une dev room sur le rétro-computing qui est organisée donc, pour présenter des projets autour des vieux ordi. Et c'est moi qui co-organise, donc je peux vous dire qu'il y a des trucs sympas. Parce que j'ai vu quelques conférences déjà. Vu que c'est en ligne cette année, hein, parce qu'il y a 8000 personnes à peu près d'habitude sur le campus, donc là, c'est pas évident. Donc ça sera en ligne et les conférenciers ont préenregistré leur intervention et il y a des trucs vachement sympas. Donc ça sera les 6 et 7 février en ligne bien évidemment.
Du lien et des liens, alors qu'est-ce qu'on a ? Les vœux de Laure de la Rodière, la nouvelle présidente de l'ARCEP, malheureusement sans les petits fours.
Ouais, c'est en vidéo.
Une pétition pour sauver Mixart Miris, un lieu culturel à Toulouse menacé par une fermeture administrative. Il avait accueilli en partie le Bazar du Libre en 2015.
En vidéo, comment fabriquer des rubis dans un four à micro-ondes ? Bon, faut avoir un micro-ondes à sacrifier, car il faudra éviter d'y mettre de la bouffe ensuite, à cause de la toxicité des composés produits.
Une liste des hashtags collaboratifs sur Mastodon, c'est-à-dire ceux auxquels on vous invite à contribuer, comme hashtag je cherche un job ou hashtag je recrute pour passer vos petites annonces de recherche ou de proposition d'emploi, ainsi que ceux qui cherchent peuvent suivre ce tag. Il y a aussi Poète Radio pour ceux qui veulent partager leurs goûts musicaux.
Et enfin, Spotify, un outil libre transformant les podcasts Spotify en simple flux RSS, utilisable dans n'importe quel lecteur podcast.
Et ouais, vive le RSS, hein. On passe à AstroLogic.
Libriste, métapresse que j'ai réussi à m'avoir.
Technophile, le porc-série, le chelemange.
Hacker, savez-vous à qui le user à la mode de chez nous.
Nerd. Les beaux parleurs, c'est magnétique, c'est en bobine, mais c'est tout de même des grosses cônes.
Macounet, laisse des tout petits cet iPhone Siri Kiki.
Microsoft, erreur de déjection du périphérique, il a fait caca au mauvais endroit.
Oui, on s'amuse comme un peu, hein, voilà.
Ah bah oui, mais bravo.
C'est une blague à la con.
Bravo.
Merci encore, Siltar, d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Merci à nos auditeurs de nous suivre encore cette semaine. Avec cette longue émission, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, mais encore le sujet. Peut-être la 5G ?
Ah, tu veux parler 5G ?
On sait pas.
Tu cherches le troll, hein.
Allez, à la semaine prochaine.
Ce sera la surprise, bye bye.
Bye bye.